Bonsoir à tous. Hier, c'était la journée de la Terre et nos invités ce soir savent ce que c'est que la Terre. Ils la cultivent. Notre émission de ce soir, Mon Biojardin sur Radio Éthique, en direct du Champagne Bar au Fermont Monte Carlo, en partenariat avec le 13e Salon Rêverie sur les jardins et le 43e concours international de bouquets organisé par le Garden Club de Monaco. Alors nos invités, justement, Alain Hervé, fondateur de la branche française des Amis de la Terre, il est auteur d'un livre qui s'appelle « Fou de plantes ». Il est fondateur de l'association Fou de Palmier, autrement dit, c'est un dingue de la terre. Michel Courboulex, directeur de la publication de la Gazette des Jardins, puis il est aussi chroniqueur Jardin de Nice Matin. Anna Messner, coordinatrice de l'AMAP, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne de Valrose, à Nice. Il y a aussi Yann Bricou, il est responsable du parc Princesse Antoinette à Monaco pour la semaine du jardinier responsable. Il y aura encore Pierre Lacarrère de Tomates et Coccinelles, une société qui vous propose d'élaborer votre potager et sur mesure. Enfin Jean Mus, l'architecte et paysagiste de renommée mondiale. On est avec Alain Hervé, l'homme qui croit au paradis. C'est vrai, c'est comme ça que vous êtes présenté sur votre site internet, Alain Hervé.
C'est très agréable. J'ai effectivement écrit un livre autrefois chez Actes Sud qui s'appelait « La proximité folle du paradis ». Parce que je crois au paradis et je crois que le paradis a existé sur Terre à une époque et que ce sont les hommes qui l'ont détruit.
Mais est-ce que vous l'avez retrouvé, ce paradis, dans les jardins que l'homme s'obstine à perdre?
On le retrouve de temps en temps. Je crois que c'est aussi une question de bonne humeur. Parce que si on s'applique à le trouver, on le trouve. Il y a sous mes yeux, sur la Côte d'Azur, des quantités de petits paradis qui sont à la portée même du Vulcum Pecus. Il n'y a pas besoin d'être propriétaire au Cap Ferrat pour en jouir. On se promène sur le sentier littoral et c'est un paradis.
Est-ce que c'est une question d'âge aussi de cultiver son jardin comme Candide à la fin de sa vie? Est-ce qu'on a plutôt envie de ne pas détruire et puis de construire?
Eh bien, il s'est trouvé que j'ai été un vrai jardinier quand j'étais très jeune, pendant la dernière guerre, la Grande Guerre, puisque j'ai cultivé avec mon père un potager et même plusieurs potagers pour nous nourrir. Donc, depuis, j'ai un peu pris de la distance avec les jardins. Je les regarde d'un peu plus haut. J'écris à leurs propos et puis je cultive mon jardin actuellement à Menton, mais qui est un jardin de bonheur, pas alimentaire. Bien que je vienne de planter un verger de 50 arbres fruitiers.
Qu'est-ce que vous avez mis dedans?
Eh bien, je dois admettre, à part les fruits que j'adore en premier lieu, tels que l'abricot, par exemple, j'ai mis des fruits assez exotiques, parce que c'est amusant, quand on est dans le climat le meilleur de France, de faire des tentatives avec des manguiers, par exemple. Mais j'ai planté des figuiers, parce que j'adore les figues, j'ai planté... des cerisiers parce que j'adore des cerises, j'ai planté des avocatiers parce qu'à Menton ça réussit très bien, etc. Ça, presque 50 espèces.
Est-ce qu'il y a un côté transmission aussi? Vous plantez les arbres, ça va pousser, ça va pas pousser, on ne sait pas encore.
Je crois qu'on le plante.
Peut-être ça sera des enfants ou des petits-enfants qui vont en profiter.
On plante les arbres pour la génération suivante en général. Il y a de fameux jardins sur la côte, comme les Colombières, par exemple, plantés par Ferdinand Bach. Il n'a jamais vu son jardin, lui, comme nous le voyons aujourd'hui, puisqu'il a planté, 500 cyprès, qui étaient des bébés. Et maintenant, ce sont d'admirables colosses qui enchantent les visiteurs.
Alors, Alain Hervé, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un des fondateurs des Amis de la Terre, version France. Ça, c'était en 70.
Oui, nous étions deux.
Il y avait qui
en 70? Un Américain, puisque l'idée avait commencé à San Francisco et que je les avais rencontrés et qui m'avait convaincu de créer une branche française. Et qu'ensuite, nous avons été créés une seconde branche européenne qui était les Anglais. Pour une fois, la France était un peu en avance.
Alors, 2 ans plus tard, c'est la Fondation du Sauvage. Ça, c'était le supplément du Nouvel Observateur. C'était avec Brice Lalonde.
Brice nous a rejoints 2 ans après la création des Amis de la Terre. Et puis, nous nous sommes très bien entendus. Nous avons été de grands amis et nous le sommes toujours. Et je l'ai invité à se joindre à moi quand j'ai créé le Sauvage au Nouvel Observateur.
C'est une belle aventure quand même qui a duré au moins 10 ans.
9 ans.
9 ans ?
Oui, qui s'est arrêté d'ailleurs en 81 à l'occasion...
À l'arrivée de Mitterrand.
Avant même. Au moment de on nous a mis en... Pas en demeure, mais on nous a demandé de soutenir la candidature Mitterrand. Et on a dit, ben, on ne la soutiendra pas parce qu'il y a un membre de notre rédaction, qui est Brice Allonde, qui est lui aussi candidat. Donc Claude Perdriguel, toujours très amicalement, nous a dit, écoutez, moi j'arrête les frais et je vous cède le titre du journal pour 1 euro.
Alors, enfin, c'était un franc à l'époque. Oui, c'était un franc à l'époque, c'est vrai. Mais c'est tout de même un paradoxe, puisque le titre disparaît alors qu'il est emblématique de l'écologie, il disparaît au moment où l'écologie commence à prendre son essor.
Vous savez, on ne sait pas quand est-ce que l'écologie prend son essor. On se le demande encore aujourd'hui. Est-ce qu'après le Grenelle, on peut dire que l'écologie a pris son essor ? Vous avez deux discours parallèles dans la presse. Il y a un discours qui vous annonce que la crise se termine, que la croissance va redémarrer. Vous avez derrière ces propositions tout un train de financiers et d'économistes qui y croient dur comme fer. Ils sont, pour moi, ce sont les utopistes de la croissance. Et les écologistes sont des réalistes. Ils se rendent compte de ce qui se passe, que les ressources sont en voie de, sinon de disparition, en tout cas de raréfaction, et avec une population de consommateurs qui augmente très vite. C'est pas tant la population mondiale qui augmente, c'est la population de consommateurs. Il y a un plaisantin qui a dit, le jour où les Chinois auront tous une chasse d'eau, ils tireront la chasse d'eau une fois, mais pas deux. Il n'y aura plus d'eau sur la planète.
Vous n'avez pas choisi une voie politique pour défendre l'écologie. Pourquoi ? C'est la politique qui ne vous intéresse pas ?
Je suis journaliste de formation. J'ai toujours été journaliste et le suis encore aujourd'hui. Sans doute, j'ai pris un pli de témoin. Je me suis engagé en politique parce que Brice Allonde, entre autres, m'a demandé de participer à plusieurs de ses aventures, dont Génération Écologie. Et je me suis donc présenté aux élections. J'ai même fait un score amusant en 76, je crois, à Paris, 12,5% dans le 6e arrondissement, parce que il y avait, disons, un début de ferveur à ce moment-là.
Donc vous avez préféré la culture, à la fois celle des livres et celle des plantes, c'est presque indissociable.
C'est long une vie finalement. J'ai écrit dans quantité de...
Ça passe tellement vite.
Oui, on ne sait pas, ça dépend des jours.
Et vous êtes aussi le créateur de l'association Foot Palmier. C'est l'emblème de la Côte d'Azur. Pourtant, ils ne viennent pas d'ici, les palmiers.
Non, il y a un palmier endémique sur la côte, dont il y a quelques exemplaires à Beaulieu et à Menton, d'ailleurs, au pied des falaises. C'est le Camerops humilis. Et puis, le palmier s'est implanté assez facilement, je dirais, depuis un bout de temps, depuis que les Phéniciens ont tiré leur barque au sec le soir, parce qu'ils n'aimaient pas naviguer la nuit. Et puis, ils dînaient de dattes et ils crachaient les noyaux de dattes et ça a donné des palmeraies. Il y en avait une qui était assez connue en Italie, à Ospedaletti, qui était vraiment...
Pas loin d'ici, d'ailleurs.
Tout près d'ici. Et qui était une palmeraie, si je puis dire, spontanée, dont il y a encore des traces, qui a été coupée en deux par la voie de chemin de fer. Mais il y avait un puits au bord de l'eau, ça a donné l'occasion à beaucoup d'épanchements romantiques autour de cette palmeraie.
Alors est-ce qu'ils sont en danger, ces fameux palmiers ?
Actuellement, oui, parce que le commerce international fait qu'on importe un peu n'importe comment. Il devrait y avoir un contrôle phytosanitaire aux frontières, mais il est difficile à exercer quand il est exercé. Et il y a quantité de palmiers contaminés, entre autres venant d'Égypte ou du Mexique, qui ont propagé des prédateurs terrifiants qui menacent les végétaux exotiques de la côte.
On va arriver à les contrer.
Michel Ferry, qui dirige le centre d'études du palmier à Elche, en Espagne, préconise une méthode qui me semble être très judicieuse, et qui évite ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire d'arracher les palmiers, de les brûler et de les faire disparaître, ce qui évidemment crée un circuit commercial qui doit en intéresser certains, parce que ça coûte cher d'arracher un palmier, ça coûte cher de le détruire, et ça coûte cher d'en racheter un remplaçant. C'est un capital pour la côte, parce que ça représente, du point de vue touristique, l'image même de la côte.
Merci beaucoup. Michel Courboulex, vous êtes un homme de presse, vous aussi.
Oui.
La Gazette des Jardins, mais pas seulement. Vous êtes l'homme jardin de Nice Matin. Vous répondez à toutes les interrogations des lecteurs. Il y a une tendance en ce moment au jardin écologique ?
Ah ben ça, c'est incontestable. Dans les jardineries, les gens de moins de 35-40 ans n'imaginent même pas avoir de jardiner non bio, quoi. Il y a une génération qui est un petit peu la mienne et qui va jusqu'à celle d'un Hervé. Qui
vous été... connaissez bien d'ailleurs.
Oui, bien sûr, puisqu'il écrit dans la Gazette.
Ouais, bien sûr.
Et qui est un peu accro aux pesticides, mais c'est au sens morphinomanie. C'est tous des schémas de réflexion et d'organisation du jardin qui impliquent le traitement et que si on ne le fait pas, on rate.
Ça se traduit aussi comment, par exemple, on évite les gazons anglais et on met les plantes du terroir qui demandent moins d'eau, par exemple.
Oui, le gazon en soi, c'est que il y a un concept qui a été développé par les communes, c'est la gestion périphérique des espaces, c'est-à-dire que de dire dans un centre-ville, on va faire devant la mairie ou dans les jardins proches du jardin très léché. Comme à Monaco, par exemple. Mais à Monaco, c'est partout. Et par contre, dès qu'on s'éloigne du centre de la ville, on a de plus en plus des jardins destinés à jouer, par exemple. Puis des jardins qui se confondent avec l'environnement, soit naturel, soit culturel, au sens de la culture du pays. Parce que c'est vrai que, surtout dans le sud, la campagne n'est jamais loin. Mmh. Ce qu'on peut appliquer... à l'échelle d'une ville, on peut l'appliquer à l'échelle de son propre jardin. C'est-à-dire qu'il faut un coin où on a envie de bronzer, avoir un beau gazon, c'est sympa. Il faut un coin pour manger, parce que désormais, quels que soient les revenus de chaque personne, on mange très très mal, on mange n'importe quoi. Or, moi là j'ai des petites rêveries de potager ornemental toute l'année, de potager paysager et de potager qui ne ressemble pas à de l'agriculture mise en carré ou en ligne. Et je me demande si... Moi, par contre, par rapport à Alain, j'ai connu le potager très tard. Et je n'ai connu que l'ornemental pendant longtemps. Et je trouve ça magique, un potager. D'abord parce que c'est beau, et puis parce que c'est bon. Et en plus, ça réagit vite. C'est-à-dire que les erreurs, on s'en rend compte assez
rapidement.
Facilement. Tandis qu'à l'échelle d'un arbre, savoir si on a planté telle plante au bon endroit, des fois...
Donc, on va commencer par les arbres, justement. Quelles sont les essences qu'il faut planter aujourd'hui dans nos régions ? L'olivier et le palmier, justement ?
Alors, l'olivier et le palmier, je pense qu'il y en a suffisamment. On va essayer de garder ce qui reste, ce qu'il y a en bonne santé. Mm-hmm. Sur l'olivier, c'est... moi, l'olivier ornemental taillé en boule, comme on le trouve dans les villes, me fout les boules, quoi. Ça me fout les boules, parce que aller faire des formes parfaites sur un arbre qui est le symbole de la liberté, ça m'agresse, quoi, personnellement. Et or, un olivier laissé plus ou moins libre en enlevant que le sec, voilà, ça peut être magique, mais le plus beau des oliviers, c'est celui, quand même, dont on déguste l'huile.
Bambou et agrumes, c'est pertinent ?
Agrumes, évidemment. Aujourd'hui, j'habite dans un vieux quartier de Nice, où il y a des agrumes qui ont presque le siècle. Et là, un jardinier est venu et j'ai 40 kilos d'oranges. Franchement, j'ai écrit un bouquin sur les agrumes, et des agrumes, j'en ai dégusté. Et l'oranger du coin de mon quartier, il fait des oranges, mais... en fait, il les fait maintenant mûres. C'est-à-dire que très souvent, on les consomme trop tôt, on dit « Ah, oh, elles sont pas bonnes, elles sont trop acides. » Mais c'est en fait parce qu'on les coupe trop tôt. Et là, elles sont à un degré de maturité, mais c'est du nectar.
Est-ce qu'on peut remplacer le gazon ?
Oui, par du potager. Parce que finalement, les gazons...
On va pas s'allonger sur les planches.
Non, mais justement, le gazon s'impose dans les endroits où on veut prendre ses aises, se détendre, pour souligner un paysage, pourquoi pas. Mais quand c'est le remplissage, c'est du remplissage quand même, les gazons. Et ça demande un entretien constant. Ça frustre les gens parce que les gens, ils mettent beaucoup d'argent. Beaucoup d'eau. Il s'épuise à tondre. Et résultat des courses, au bout du premier ou deuxième été, c'est la tristesse. Bon, d'un autre côté, vous allez en Angleterre, vous allez voir qu'ils plantent de tous les côtés des cistes, des plantes méditerranéennes vraies, et nous, des thym, des romarins, ça c'est leur kiff. Nous, c'est le gazon anglais. Bon. Le gazon, oui, au gazon, quand c'est pour jouer et pour se rencontrer. Mais...
Et sur quels critères sélectionner les plantes? Sur leur peu d'appétit en eau, si je puis dire?
Ah ben oui, ça, je crois que... En fait, très souvent, voilà, par le courrier d'ici matin, on se rend compte que d'avoir choisi la mauvaise plante au mauvais endroit, ben, ça ne marchera jamais. On peut faire toutes les mixtures que l'on veut. Si vous plantez un camélia en plein soleil dans la terre calcaire, il va crever, quoi. Et c'est dommage que la profession de pépiniériste et de jardinerie n'enlève pas toute une gamme de plantes qui ne font que créer des problèmes.
Alors vous aussi, vous écrivez sur les plantes et sur ce que vous aimez. La Gazette des Jardins, je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs la connaissent. Vous pouvez nous l'expliquer un petit peu?
Donc la Gazette des Jardins a 15 ans. C'est un journal qui a été un peu atypique parce qu'il a été créé par des jardiniers. C'est un journal inclassable, c'est-à-dire que c'est du journal en papier. Ça ressemble à une couverture de magazine, mais quand on l'ouvre, c'est un journal. Il y a une priorité à l'écriture par rapport à la photographie. Il y a une volonté de dire que au jardin, tout est relatif. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est des exemples des autres, des discussions avec les autres, qu'on peut se dire, tiens, si j'essayais comme ça. Parce que deux jardins, même dans le même jardin à 100 mètres de distance, vous pouvez avoir une plante qui va être parfaitement à sa place, et à 100 mètres de là, c'est la glorieuse incertitude du jardinage. Et le jardinage, c'est un peu comme la vie, on ne sait jamais...
À la Gazette des Jardins, vous avez des chroniqueurs aussi. Qui est celui qui fait parler les pépés paysans? On peut le connaître, malgré son pseudo?
C'est Jean Tonelli, le fondateur du...
Et vous donnez des conseils aussi aux gens qui veulent essayer d'avoir la main verte.
Oui, mais toujours, toujours en relativisant, il n'y a pas de vérité. Mm-hmm. C'est-à-dire, moi j'ai essayé comme ça, ça se passe comme ça. Les jardiniers parlent aux jardiniers, moi j'ai essayé ça. Ça a bien marché, ou là je me suis lamentablement planté, mais pour la personne qui lit ça, justement on fait appel à
son
intelligence, parce que de toute manière, je vous dis, il n'y a pas la Bible du jardin, ça n'existe pas, et heureusement.
Et qu'est-ce qui revient le plus dans les questions des lecteurs?
C'est difficile. Il y a les maladies. Il y a des choses extraordinaires, comme une vieille dame de 85 ans qui avait écrit en disant « Moi, j'ai toujours jardinier bio, mais je le disais pas aux voisins, je le faisais en secret, parce qu'autrement, ils croyaient que j'allais leur envoyer les poux. » C'était ça, mais non, mais jusqu'à il y a peu de temps, dans un jardin, si on avait des insectes, c'était dégueulasse, quoi. Et ça l'amenait aux autres, c'est un peu, quoi. Voilà. Et ces gens-là qui vous disent ça et qui maintenant sont heureux d'avoir jardiné bio toute leur vie. En fait, il y a eu une génération, et je pense que si on parle de la terre en règle générale, il y a eu une ou deux générations qui a été pris dans une folie de croire qu'on pouvait tout régenter.
Voilà. Merci Michel Corboulex. Dans un instant, on va prendre la défense de l'agriculture paysanne et puis on fera un petit tour au parc Princesse Antoinette de Monaco.